6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Marguerite Caton, bonjour.
Bonjour Guillaume et bonjour à tous.
Très sportive ce matin puisque vous avez enfilé un survêtement.
Affirmatif.
Tout ça pour parler des JO et des maths.
Oui, s'il y a un chiffre à retenir dans l'actualité, c'est celui de 10 milliards. 10 milliards, le montant des économies que le gouvernement a décrété au mois de février. Le montant des nouvelles économies annoncées il y a quelques jours, c'est aussi la somme que les Jeux Olympiques vont coûter et qu'ils sont supposés nous rapporter. C'est donc un chiffre un peu magique. Bonjour Christophe Le Petit.
Bonjour.
Pas de chiffre magique avec vous qui êtes le responsable des études économiques du Centre du droit et d'économie du sport de Limoges. D'autant que vous avez participé à l'évaluation du budget des JO en 2016 et que vous planchez aujourd'hui à son actualisation. La première chose que nous voulons savoir, Christophe Le Petit, c'est qui paye. Le grand principe qui régit le budget de ces JO, c'est que les Jeux financent les Jeux. Qu'est-ce que ça signifie exactement ?
Alors, qui paye, ça va nous obliger à décortiquer un petit peu ce budget des Jeux. Effectivement, quand on parle du budget des Jeux, en fait, on devrait parler des budgets des Jeux, parce qu'il y a en fait deux organisations qui sont en charge de la livraison et de l'organisation. Il y a le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, donc Paris 2024, qui dispose d'un budget de 4,4 milliards d'euros. Et il y a la société de livraison des ouvrages olympiques, qui dispose, elle, d'un budget de 4,5 milliards d'euros, qui est chargée de livrer tous les sites de compétition et de non-compétition qui vont être nécessaires aux Jeux.
Oui,
et
donc, le premier organise et le second construit.
Exactement. Donc quand vous parlez de l'adage, le fameux adage « les Jeux financent les Jeux », on parle en fait du budget du comité d'organisation, c'est-à-dire les 4,4 milliards d'euros qui servent véritablement à organiser les épreuves, transporter les athlètes, les accueillir, etc. Parce que sur ce budget, 96% du financement effectivement est privé et provient de trois principales sources. Le comité international olympique, qui est le propriétaire des droits et qui verse une partie de ses revenus au comité d'organisation de Paris 2024. Les partenariats nationaux, c'est-à-dire négociés par Paris 2024 sur le territoire français, et la billetterie, qui représente finalement le troisième et dernier grand pilier des Jeux. Et donc, tous ces financements privés représentent 96% des 4,4 milliards du comité d'organisation. Il y a 4% de financement public qui sont ciblés sur l'organisation des Jeux paralympiques. Et donc, c'est en ça qu'on considère que les Jeux financent les Jeux, puisqu'au niveau du comité d'organisation, il y a extrêmement peu de financement public.
Et si on se penche sur le deuxième pan du budget, celui de la Solideo, la société qui prend en charge les grands chantiers de construction, le village olympique à 646 millions d'euros, le centre aquatique de Saint-Denis, 174 millions, les 138 millions de l'Adidas Arena Porte de la Chapelle, ce sont des coûts qui sont à la charge de l'État.
Oui, alors là, il y a effectivement sur le budget de la Solideo, donc les 4,5 milliards d'euros, il y a 50% de financement public, dont une grande partie à la charge de l'État. On estime à 1,2 milliard d'euros la contribution de l'État sur le budget de la Solideo. Et effectivement, ici, il y a beaucoup plus de financement public parce que finalement, certes, les infrastructures vont bien servir au jeu, notamment toutes celles que vous avez citées, mais il s'agit aussi d'infrastructures qui vont léguer ce qu'on appelle aujourd'hui un héritage, c'est-à-dire qui vont être utilisées par la France et les Français et Françaises qui vivent dans les territoires, bien au-delà des Jeux. Et donc là, on retrouve un mode de financement assez classique des infrastructures, avec un mélange de public et de privé pour construire de grandes infrastructures, en tout cas ce qui s'apparente à de grandes infrastructures, que ce soit des salles sportives, mais aussi effectivement les deux villages, le village des athlètes et le cluster des médias, qui sont des infrastructures extrêmement lourdes, créées en Seine-Saint-Denis et qui visent à finalement désenclaver ce territoire qui souffre de quelques difficultés.
Et vous le dites, 50% de financement public, des partenariats avec des entreprises privées. Quelles sont ces entreprises? Quel retour sur investissement attendent-elles en participant à ce financement? Est-ce qu'elles auront des propriétés ensuite?
Alors les entreprises sont privées qui financent les éléments sur la partie Solideo, ce sont essentiellement des promoteurs. C'est-à-dire par exemple que le village olympique et le cluster des médias, ils vont servir aux athlètes et aux médias pendant les Jeux. Et puis une fois les Jeux paralympiques terminés, ils vont être reconvertis en habitations et en bureaux. Et ces habitations et ces bureaux vont être commercialisés par des grands promoteurs qu'on connaît, hein, Vinci par exemple, mais également d'autres, qui donc participent aux frais de reconversion dans l'objectif de se rentabiliser, de se payer sur la commercialisation post-jeu de ces espaces, à la fois bureaux et habitations.
Si l'on fait le total de l'argent public investi dans les JO, sur les 10 milliards environ que vont coûter les Jeux, à combien estimez-vous la part publique? Enfin, pas la part, la somme d'ailleurs, parce qu'il y a un peu un flou. Emmanuel Macron a dit 2 milliards, la Cour des comptes dit 3 milliards, voire 4 ou 5.
Oui, alors effectivement, moi je suis plutôt partisan de pencher vers ce que dit Emmanuel Macron, c'est-à-dire autour de 2 milliards d'argent public, si on cumule Solidéo et Cojo. Ce qui fait dire à la Cour des comptes qu'il y aura un petit peu plus d'argent public investi, c'est qu'effectivement, on n'a pas parlé d'une partie des choses qui vont être également payées par la sphère publique. C'est tout ce qui relève notamment de la sécurité dans l'espace public. Parce qu'effectivement, Paris 2024 va être responsable de la sécurité dans les sites olympiques et aux d'abord immédiat des sites olympiques, mais l'État reste bel et bien responsable de la sécurité dans l'espace public, aéroports, gares, et puis l'ensemble de l'espace public. Et effectivement, ici, il y aura probablement un surcoût, puisqu'on sait que les fonctionnaires vont percevoir des primes pour renoncer à leur prise de congé ou pour faire face à un surcroît d'activité durant l'été. Et c'est ce qui a fait dire, notamment à Pierre Moscovici, que le coût pourrait être supérieur de quelques milliards d'euros par rapport à ce que l'on vient de discuter. Donc effectivement, c'est ça qui amène bon an mal an à cette facture que vous évoquez autour de 10 milliards d'euros.
Deux questions échauffent les esprits à l'heure actuelle. D'abord, est-ce que le budget est dans les clous? Donc on en a un peu parlé. C'est important parce que s'il y a du déficit, c'est l'État qui est garant à hauteur de 3 milliards d'euros qui devra éponger. Et donc je me demandais quelles sont les dernières variables budgétaires là, à 100 jours de l'ouverture des Jeux.
Oui, alors le budget est relativement dans les clous, il faut le souligner. En fait, par le passé, on a eu des explosions budgétaires avec des budgets multipliés par 2, 3 et même parfois par 7. Pour Paris 2024, on est sur un budget qui a certes augmenté, mais dans des proportions très limitées. On est sur une augmentation de plus 15% entre la phase de candidature et aujourd'hui. Il subsiste toujours des risques de dérapage à la fin, hein, notamment si vous devez organiser des choses un peu à la hâte ou si justement les frais de sécurité, y compris dans les sites, se renchérissent considérablement, notamment pour faire face à des contextes un petit peu tendus qu'on peut connaître aujourd'hui. Donc voilà, il faudra suivre ça au jour le jour. Je crois que c'est Fabrice Lacroix, le directeur financier du comité d'organisation, qui disait qu'il suivait ça au jour le jour et qu'il essayait de négocier parfois avec certaines de ses parties prenantes, notamment publiques, eh bien, la prise en charge de certains frais quand des frais non prévus arrivaient, sachant qu'il existe encore une partie de réserve dans le budget du COJO qui peut permettre d'absorber une partie du surcoût. Donc je pense que globalement, on est plutôt dans les clous aujourd'hui. Il faut espérer que ça dure jusqu'au bout.
Et la seconde question qui fait beaucoup parler, c'est celle des retombées économiques positives à attendre. Peut-être un effet d'accélérateur sur la croissance, mais ça, je crois qu'on attend votre rapport d'ici quelques jours, peut-être. On aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup, Christophe Lepetit. Je rappelle que vous êtes le responsable des études économiques du Centre du droit et d'économie du sport de Limoges. Merci.